émission qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. À 33 tours minutes.
Et bonsoir à tous, chers manches disques, c'est Julien et Nico pour l'émission Disque Vinyle de Radio G, un lundi sur deux, des lundis, des semaines impaires, et nous y voici, donc deux semaines après notre dernière émission, on est de retour avec des galettes à vous faire écouter, des morceaux issus de ces galettes, et bien sûr on va vous en parler un petit peu, comme c'est la tradition dans cette émission, et on va commencer par un morceau de ta sélection, donc peut-être tu nous présenteras après.
Tout à fait. Je vous laisse profiter du voyage. allez apprécier le Dead Mantra des Dead Skeletons sur leur album Dead Magic. C'est une très belle réédition du Fuzz Club, d'un album de 2011. Les Dead Skeletons, donc un duo islandais qui a fait le premier Lévitation Angevin, un excellent album qui vient d'être réédité parce qu'il était introuvable et est devenu hors de prix. A priori, ça va partir vite. Moi, je remercie Stéphane de Homo Axe de me l'avoir conseillé parce que c'est une vraie bombe, musicalement évidemment, mais aussi comment dire, le packaging, quoi. Le gatefold est superbe, c'est dans des cartons avec des photos de cérémonies probablement aztèques ou je sais pas quoi, avec des photos avec des squelettes, etc. C'est très très bon, et puis bah, le son évidemment est à l'avenant.
Carrément, on s'imagine bien ça, effectivement, à Lévitation. Et du coup, c'est le disque de l'époque, enfin, c'est-à-dire que c'est le même album qu'ils étaient venus jouer à Lévitation.
Oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais.
Il y en a eu d'autres depuis ou non?
Non, je crois pas. Je crois qu'il y a eu seulement un live, si je dis pas de bêtises, mais il n'y a pas eu d'autres albums. Okay. Ce premier album était devenu introuvable. Est-ce que c'est un groupe qui tourne encore? Je sais pas trop. Je découvre, hein, donc je suis pas spécialiste.
C'est une belle découverte.
Mais ouais, c'est un très beau double LP. Ouais. Qui est vraiment dans cette ambiance. Là, c'est un des longs morceaux, mais bon, c'est des morceaux de 5-6 minutes de toute façon, ouais. Et puis c'est bien, bien psyché. Et,
écoute,
bien
je vais peut-être aller voir si Stéphane, il en reste un petit, parce que c'était vraiment, vraiment sympa. Ça nous a rappelé des bons souvenirs. C'est assez alléchant d'ailleurs. On peut peut-être toucher deux mots du fait que le festival Lévitation a mis en vente, même, c'est pas trois jours.
À prix réduit pour l'instant, je crois.
À prix, oui,
10 balles de moins,
ouais,
quelque chose comme
moins, moins cher que séparément. C'est l'habitude en tout cas, donc 90 euros les trois. Les trois jours, ce qui rapportait au prix d'une journée.
Oui, c'est que dalle.
C'est pas mal.
Parce que ça commence.
C'est une somme, mais voilà.
Ouais, mais ça commence à 17h, ça finit à quasi 2h du mat. Enfin, voilà,
et la prog est toujours aussi ouais, bien foutue. Donc là, les noms qui sont annoncés sont toujours dans du même acabit. Donc voilà. C'était simplement le petit clin d'œil à un festival qu'on aime beaucoup et qui nous fournit pas mal de découvertes, dont celui-là a posteriori. Mais on repart souvent avec au moins un vinyle ou deux. Donc voilà, petit.
Enfin, sauf l'année dernière, parce que.
L'année dernière, c'était un peu compliqué la vente de vinyles.
Il y a eu un peu de merchandising de Slift, hein, mais sinon, c'est vrai qu'il n'y avait que dalle. Alors d'habitude, il y a toujours un disquaire avec des bacs, avec des belles choses. Mmh. Et puis un espace boutique aussi, de groupe et tout. Et là, l'année dernière, je ne sais pas ce qu'ils nous ont fait.
Alors on ne sait pas, on met tout sur le compte du Covid, comme ça, hop. On explique tout comme ça.
Exactement.
Et puis on verra bien en juin cette année, attention.
Oui,
n'attendez pas le festival
à la rentrée.
À la fin de l'été, début de l'automne. C'est bien. En juin, voilà. Donc peut-être qu'on mise sur le beau temps compte tenu de la nécessité maintenant que ça se passe à l'extérieur. Je ne sais pas. Je ne suis pas dans la tête des organisateurs, mais voilà, ça peut être sympa. Un petit mois de juin. Maintenant, je vais commencer ma programmation à moi par un hommage à une grande dame qui nous a quitté donc le 9 février dernier. Il s'agit donc de Betty Davis qu'on surnomme la reine du funk, qui a eu une vie assez tumultueuse, une fin de vie encore plus, mais on peut simplement dire que Betty Davis, elle a eu une carrière, on va dire, qui ne lui a pas offert vraiment le succès mérité, en tout cas, ou en tout cas celui qu'elle a récolté bien plus tard pendant ses œuvres, puisqu'elle était, elle est jugée aujourd'hui comme bien en avance sur son temps, sur beaucoup de thématiques, notamment le féminisme et l'exacerbation de la sexualité féminine à une époque de donc fin 60, début 70, où aux États-Unis c'était pas simple, ça devait pas être simple non plus que ça vienne d'une afro-américaine, donc elle a multiplié quand même les problématiques, on va dire, de politique, on va dire, dans son style bien provocant, avec des jeux de scène assez explicites, des paroles qu'il était tout autant, tout ça sur des rythmes funk absolument endiablés. Elle était beaucoup accompagnée par des musiciens, notamment de Sly and the Family Stone ou de Graham Station, le groupe de Larry Graham, donc le bassiste de Sly and the Family Stone. Donc autant vous dire qu'il y a du monde, à l'orchestre. Donc Betty Davis, c'est aussi, elle tient son nom d'ailleurs, son nom de famille de Miles Davis, puisque c'est la deuxième femme de Miles Davis, une union qui a duré un an, qui a été marquée par dit-elle, beaucoup de violence conjugale, et qui a, voilà, pour la petite rubrique potin, c'est aussi Betty Davis qui a fait rencontrer Miles Davis et Jimi Hendrix.
Qui l'a relooké.
Qui l'a relooké aussi, voilà. Et Miles Davis, si jamais, enfin, apparemment, la raison de leur problématique de couple, c'était qu'il lui a soupçonné une aventure avec Jimi Hendrix. Voilà, ça c'est pour la rubrique petite potin. Voici des années 70.
Il y a prescription, mais bon.
Omangis, sa prescription, elle a toujours nié. Décédé. Pour information, et ça n'a pas empêché Miles et Jimi Hendrix de poursuivre une amitié bien après la séparation avec Betty Davis et de produire de belles collaborations avant, bien sûr, le décès de ce cher Jimi Hendrix. Voilà, Betty Davis, c'est trois albums qui sont sortis donc à l'époque, hein, trois albums, donc c'est pas compliqué, 73, 74, 75, bim. Ensuite, il y a eu un autre album de morceaux oubliés.
Outtakes et tout ça, ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça, donc il a été ressorti bien plus tard en 2006, je crois, qui s'appelait Is It Love or Desire.
Ah oui, donc, pardon, je croyais que c'était le Columbia.
Ah oui, non, c'est pas ça. Non, Columbia, d'accord. Ce sont des tapes, machin, mais ça, c'est un autre album, apparemment, okay. Un album caché qui n'était jamais sorti, etc. Mais enfin bon, les trois vrais albums de Betty Davis, ceux qu'on connaît, ceux qui ont fait sa renommée, je disais tout à l'heure, un petit peu tardive par les diggers et les amateurs, vraiment la niche funk d'aujourd'hui, quoi. C'est et puis les samples aussi qui ont été pris de Betty Davis par des rappeurs aussi.
Prince a eu des très jolis mots, hein, sur elle, je
oui,
crois. Hein.
Ouais. Oui. Il a repris d'ailleurs une chanson lors d'un show radio. Et il avait fait, il avait dit que ça faisait partie des artistes qui ont bercé en fait son enfance et qui.
C'était une sorte de mélange de Madonna, de Michael Jackson et tout. Enfin, je sais plus. Il a fait un espèce de construction de différentes superstars en disant elle était tout ça, quoi.
Mais oui, mais c'est vrai que c'est vraiment ce qui caractérise son style, parce qu'elle arrive à faire un joli mélange entre donc le funk, comme je l'ai bien souligné, mais j'ai peut-être pas assez souligné que dans sa musique, il y a beaucoup d'influence du rock psychédélique notamment, et des guitares qui sont assez présentes sur certains morceaux, et je trouve ça fantastique, tellement que je vous ai pour moi choisi donc ce qui est pour moi le morceau le plus emblématique de ça, en tout cas ce qui est mon morceau préféré de Betty Davis maintenant que j'ai écouté ces trois albums. Je compte pas le quatrième, mais voilà, il y a peu de chances que quelque chose détrône ce morceau dedans. Un morceau qui s'appelle Get In There, qui est issu donc de son deuxième album qui s'appelle They Say I'm Different, et c'est vrai qu'elle l'était différente, qui est sortie donc en 1973 ou 14, j'aurais dit 14 moi, mais bon. Donc c'est peut-être 73, 74, 75, j'ai dit tout à l'heure, à moins que ce soit 12, 73, 74, je sais pas. En tout cas, ça suit, enfin, c'est dans ces eaux-là, quoi. Très rapproché. Et donc ça a été réédité en 2007, ça c'est certain, par le label Light in the Attic, qui est un sacré label de réédition.
À noter un reportage assez intéressant, même si un peu lacunaire, hein, comme on en avait pu en discuter, mais assez intéressant sur elle, sur sa vie, sur sa disparition du Star System, et puis avec quelques fugaces apparitions de cette dame.
Elle avait été interviewée en fait, donc
en 2017, je crois.
Elle n'apparaissait pas à l'image, mais
enfin, des morceaux, un œil, il y avait un côté mystérieux.
Oui, c'est vrai. C'est passé sur Arte, ça s'appelait Betty Davis, la reine du funk.
Ouais, c'est peut-être en replay.
Qui n'a pas été. Plus en replay, malheureusement. Ah, et oui, ça n'a pas été. Je m'attendais à ce que ce soit rediffusé à l'occasion de sa disparition, quand même un petit peu dans l'indifférence générale, hein, en février dernier. Et en fait, donc j'ai même envoyé un message d'ailleurs pour tout te dire sur Facebook Arte. Ils m'ont dit qu'ils allaient en toucher deux mots au programmateur, mais moi j'ai pas vu de nouvelles de ça, donc ça c'est pas. Ça s'est pas fait, mais peut-être ça peut se trouver en streaming.
En tout cas, l'hommage, il est là ce soir sur le manche disque.
Ouais, voilà, on lui rend hommage. Et puis tout à l'heure, il y aura un petit bonus aussi juste après ce morceau-là. J'enchaînerai avec un autre morceau dont je vous parlerai aussi, qui parle aussi de Betty Davis, mais d'une autre manière. Music me. Stop playing. Get funky like a skunk. Do you hear what Brad is saying? Play anything that you wanna, long as you get down, 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 down. Got him there. Dance, 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 all night long. We gon' do it, dance, now. Dance, have a good time. Dance, go on dance, and dance, do it, drop a high. Dance, dance, dance.
Cordell show. On that wah wah pedal now.
Donc c'était ce Get In There de Bette Davis qui vous a démontré un petit peu ce que j'ai essayé en tout cas de vous introduire, c'est-à-dire toute cette hargne, cette
énergie peps, incroyable.
Cette énergie dans le chant, on s'imagine même pas comment elle danse là-dessus sur scène, parce que ça frôlait l'indécence, et c'est bien ce qui lui a valu multiples censures et critiques de l'époque, et qui lui a coûté une bonne partie de son succès, mais maintenant on va découvrir une autre Bette Davis, peut-être plus de l'ordre de la Betty Marbley d'ailleurs, qui était son nom de jeune fille, et qui, avant d'être interprète, cette sublime interprète, était aussi songwriter et a écrit notamment un des succès du fameux groupe américain The Chambers Brothers. Chambers Brothers qui ont notamment, parmi leur discographie, pondu cet album magnifique qui s'appelle The Time Has Come, qui contient leur succès principal qui s'appelle The Time Has Come Today, qui est un grand classique soul psychédélique rock de l'époque 1967, puisque cet album est sorti en 1967. Et sur cet album figure aussi un autre de leurs morceaux qui s'appelle Uptown. Et Uptown, c'est aussi un classique funk, hein, mais que l'on doit justement à une Betty Davis qui n'avait pas encore osé faire son propre album, mais qui écrivait déjà pour les autres. Donc c'est aussi un autre aspect de la diva que je voulais vous faire découvrir, en tout cas, redécouvrir, grâce à ce petit morceau qui s'appelle Uptown, donc des Chambers Brothers. Voilà donc ce fameux morceau Uptown in Harlem.
On le disait hors ligne, pardon.
Oui, vas-y.
On le disait hors ligne, mais c'est vrai qu'on s'imagine très bien Betty Davis chanter ce titre-là.
J'aurais bien aimé être une petite souris au moment où elle composait et où elle fredonnait, où elle chantait avec sa voix dont elle ignorait encore le succès. Ce morceau, ça devait être quelque chose quand elle aura fait la démo. M'étonne pas qu'ils aient accepté les Chambers Brothers. Pas fou.
Oui, c'est clair. Ben, je vous propose de rester un peu dans l'esprit en fait du funk avec un album qui va être un peu plus jazzy mais qui s'appelle, et j'aime beaucoup le titre, Friday Night Funk for Saturday Night Brothers, un album de Rusty Bryant, le saxophoniste, un album de 1973 sorti chez Prestige Records où il enchaîne les longs morceaux, hein, donc je vais vous passer encore un morceau assez long qui s'appelle Mercy, Mercy, Mercy. C'est composé par Joey Zawinul, que les amateurs de Weather Report connaissent peut-être, puisque c'est vraiment la pierre angulaire, hein, de cette formation. Et sinon il y a pas mal de morceaux aussi qui sont composés par Kenneth Moss, le pianiste et l'organiste, qui est crédité sous le nom de Khalid, donc il avait dû se convertir, je pense, hein, pour voilà. Donc un très bon album de Rusty Bryant, Friday Night Funk for Saturday Night Brothers. L'album, le titre, je vais y arriver. Mercy, Mercy, Mercy. Brian, donc sur le, enfin dans le manche disque 101.5, Friday Night Funk for Saturday Night Brothers, les amis.
Ah ben c'était pas mal, et on a vu donc que ce monsieur Cannonball
Adderley
l'avait inauguré ce morceau.
Ouais, dans les fins des années 60.
66.
Ouais, on a regardé.
En 66. donc une année avant le Chambers Brothers qu'on a écouté tout à l'heure. J'essaie de faire des transitions temporelles, mais je sais pas.
C'est pas mal.
C'est,
hein.
Ça, c'était combien?
Rusty Brian, c'est plus tardif, 73.
73, eh ben voilà. Eh ben tu vois.
Eh ben voilà.
J'étais un petit peu médium là sur ce coup-là. On retombe sur nos pattes. Je vais vous passer maintenant un disque de 1973, très exactement la même année, un disque de Jean-Claude Pelletier. Est-ce que cela vous évoque quelque chose?
Un monsieur tout nu qui court.
Exactement, son album le plus célèbre, enfin le plus digué en tout cas, le plus apprécié, de Stray King, bien sûr, de Jean-Claude Pelletier, sorti chez Vogue et réédité chez Vadim Music. Eh bien, Jean-Claude Pelletier, c'était aussi donc un compositeur qui faisait comme tout le monde à l'époque pour se faire de l'argent. Et comment on faisait à l'époque pour se faire de l'argent? Eh bien, on sortait une compilation avec son orchestre de reprises de titres bien connus. Alors là, je ne vous citerai que
Spécial Danse, hein, quand même.
Spécial Danse, bien sûr. Danser. Voilà, c'est ça. C'est que c'était dans les bacs, il y avait écrit Spécial Danse. Si vous organisez un bal, prenez ce disque. Vous allez voir, dessus, il y a des tubes américains comme Let It Be. I've Been Loving You Too Long de Otis Redding, bien sûr. Yesterday aussi de Lennon et McCartney, le deuxième Beatles. Summertime, My Prayer, Only You et d'autres standards, Georgia on My Mind, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on veut faire, quand on veut se faire un petit peu d'argent? Eh ben, on place un de ces titres aussi dedans.
Souvent un petit peu plus audacieux en plus,
ben oui.
on peut le dire.
En plus, qui n'a pas besoin d'être ni radiophonique, ni catchy, ni ce qu'on veut, parce que de toute façon, l'argument de vente, ce n'est pas ça. Mais par contre, on peut se faire plaisir, donc composer un morceau, le placer sur une compile comme ça, et qui sait, peut-être s'attirer le succès. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est toucher les royalties, partager les royalties de la compile avec les autres artistes qui sont les arguments de vente principaux. Alors ce disque-là, il s'appelle Intimement Vôtre. Il date de 1973. Il m'a été offert aimablement par un illustre digger angevin qui s'appelle Hervé Bronski et qui m'a dit, voilà, écoute, cette compile-là, tout le monde va la laisser dans les bacs parce que personne ne sait que dessus, il y a un morceau qui s'appelle Bourbon Connection et qui est de Jean-Claude Pelletier. C'est le seul morceau original composé et interprété pour le coup par Jean-Claude Pelletier et son orchestre. Il m'a dit voilà, donc je te le donne, c'est pas un grand disque, hein, c'est pas un disque d'une rareté extraordinaire, mais juste pour la petite trouvaille, la petite pépite qui se cache à l'intérieur, ça me fait plaisir de te l'offrir. Eh bien écoute, merci Hervé, merci beaucoup. Et figure-toi que j'ai fait un petit effort, c'est-à-dire que je ne l'ai pas écouté avant ce soir parce que je voulais que la première fois que je l'écoute, ce soit en direct dans l'émission,
avec
partagé
vous,
avec
auditeurs.
Toi Julien, avec les auditeurs. Et on va s'écouter donc ce morceau Bourbon Connection. Et si vous recroisez donc Intimement Vôtre de Jean-Claude Pelletier et que ce morceau vous a plu, Envie de Grenier, eh bien
on laissez les mots, laissez le moi déjà.
Voilà, vous, c'est ça. Allez, on s'écoute ça. Et merci bien, mon cher Hervé, merci bien pour ce morceau tellement Blaxploitation à la Jean-Claude Pelletier avec les cuivres qui vont bien. Et c'est vrai qu'il est bien cool, bien slow tempo. On a envie de se l'écouter à bord d'une bonne décapotable dans les rues de Harlem. Et merci, merci pour ce petit cadeau. On espère que la découverte vous aura plu, cher Manche-Disque.
Exactement. Alors, la transition n'est pas évidente, mais je vous propose de découvrir un morceau du dernier album de Project Lazarus. Project Lazarus, c'est le projet solo d'un Canadien, si je ne m'abuse, qui s'appelle Boris Segal, qui est passionné de Soviet Wave, donc cette espèce de courant électro, à la fois rétro et à la fois soviétoïde, en fait, qui intègre des sonorités qui font vraiment penser, je pense, aux musiques de la librairie, peut-être de l'époque, qui accompagnait les reportages ou la télévision, la radio, etc. C'est un courant qui a pas mal le vent en poupe. Hein.
Très d'actualité en tout cas.
Oui, en plus, effectivement. Mais d'autant plus que voilà, si vous allez sur YouTube, vous tapez Soviet Wave, vous allez avoir plein de compilations, plus ou moins heureuses d'ailleurs, hein, parce que pour moi, la Soviet Wave, on est vraiment sur des morceaux un peu ambiantes, étirés, avec des sons un peu rétro, qui font vraiment typique de la fin des années 70, des sons électro, hein, bien sûr, à la fin des années 70, début 80. Donc, Boris Segal, il joue le jeu, hein, parce que tout est en cyrillique, donc je suis passé par Google Trad. L'album s'appelle Uchites Zasdichat Rodinu, c'est-à-dire apprenez à défendre votre patrie. C'est un très bel album. Alors il n'était pas évident à choper. Il était d'abord en précommande avec trois autres titres du label qui ne m'intéressaient pas forcément. Et ensuite il s'en est vendu très peu d'exemplaires, mais j'ai réussi à en dégoter un. En contactant directement l'artiste. Donc je tiens à le remercier de m'avoir fait son petit envoi en personne.
Sympa.
Donc ouais, je suis très heureux. Et je vous propose donc d'écouter ce morceau, voilà, très calme, hein, mais propice à la rêverie, propice à l'imaginaire, avec un très beau visuel, hein, à la fois propagande et des coupes techniques de vaisseaux, une femme aviatrice ou pilote, en tout cas en train de fumer une cigarette. Le morceau s'appelle Mezveznoye Vodrachenie Domoy, c'est-à-dire retrouvailles interstellaires. Désolé pour le russe, hein, j'ai fait ce que j'ai pu.
Bravo, on s'écoute ça. On s'est bien retrouvé dans l'espace.
Exactement. Alors, je ne sais pas exactement si c'était le morceau que je comptais vous passer, parce que comme j'expliquais à mon compère, j'ai fait mes devoirs, j'ai copié-collé le cyrillique, j'ai mis ça dans Google Trad, etc. Mais je n'ai pas noté le morceau en cyrillique. Donc, j'ai dû le retrouver à partir de l'écriture dans notre alphabet. Donc, c'est une galère pas possible.
Ah ouais, d'accord.
Mais bon, de toute façon, c'est toujours un peu le même style. On est dans de l'ambiance, on est bien posé.
En tout cas, on a bien voyagé, là.
Ouais, exactement.
A bien voyagé et ça introduit magnifiquement ce que je comptais vous mettre maintenant, à savoir un grand classique. Là, pour le coup, on n'est pas du tout dans le rare groove ou dans le morceau le plus obscur de l'album que je vais vous passer, puisqu'on va parler de Radiohead, de la réédition de leur 4 et 5e album, si je ne m'abuse, que sont qui est le comment on dit, un diaptyque, c'est comme on dit.
Quand
il y en a deux,
un diptyque, je pense.
Un diptyque.
Un diptyque.
J'ai rajouté une lettre.
En peinture, c'est ça, je crois.
Un diptyque, pardon. Donc un diptyque, j'avais bien une hésitation dessus. Un diptyque, donc Kida et Amnesiac, qui fait ensemble Kida Amnesiac, qui sont vraiment des albums, enfin surtout Kida, qui marque vraiment un virage artistique dans la carrière de Radiohead, puisqu'ils étaient arrivés à leur paroxysme rock alternatif indé avec OK Computer, et en fait ils ont eu vraiment besoin de changer complètement de son, et ils ont intégré beaucoup de musique électronique, de synthétiseurs, d'effets sur les voix, et ça a donné cet album, ce chef-d'œuvre absolu qui, je l'ai appris d'ailleurs en parcourant un peu le net, a été élu, a été désigné, je sais pas s'il était élu, mais en tout cas désigné par beaucoup de critiques comme étant le meilleur album en tout cas des années entre 2000 et 2010. Bon, voilà, comme toujours, ça suppose discussion, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un chef-d'œuvre. Et puis, du coup, Amnesiac, derrière aussi, apporte vient
Amnesiac clôturer. Vraiment, moi, j'aime beaucoup. Il a été un peu accusé de contenir les chutes du précédent.
Ah bon?
Mais moi, je trouve qu'il a vraiment son intérêt, quoi. C'est pas juste, il nous restait des morceaux, on va les balancer.
Ah ben non,
parce que. Tout cas, c'était une qualité dans Kid A que ça se tient chez Amnesiac, quoi.
Donc, pour les 20 ans de. C'était les 20 ans d'Amnesiac, me semble-t-il. Et donc les 21 de Kida. Il y a eu une réédition donc en triple vinyle, double vinyle pour à moins que ce soit l'inverse, mais je crois que c'est double vinyle pour Kida et simple, et un vinyle pour Amnesiac. Et quand on enchaîne les trois, on n'a pas du tout l'impression qu'à un moment donné il y a eu une chute qualitative, que ce soit dans la composition, dans les morceaux eux-mêmes. Ça souligne encore une fois le talent extraordinaire de Thom Yorke en termes de mélodie, parce que je crois que ce gars-là il a peu d'équivalent quand même en termes mélodie. On parle même pas du travail sur le son en lui-même, qui est hyper expérimental, hyper novateur, surtout pour l'époque. Même encore aujourd'hui, on a tendance à y voir des choses uniques. Donc à l'époque, je vous explique même pas, mais au niveau des mélodies, c'est juste incroyable les trucs qu'il arrive à trouver. On a l'impression que c'est des musiques classiques revisitées, quoi. Voilà, donc on va s'écouter du coup, tant qu'à faire, mon morceau préféré du diptyque, donc qui est pas du tout le plus méconnu, mais c'est comme ça. Ça s'appelle Everything in its Right
Place. C'est mon préféré aussi.
Et c'est le morceau d'ouverture de Kida.
Prendre la parole après ça, presque.
Morceau de folie.
Mais il va être temps de se quitter.
Eh oui.
Il va être temps de se quitter avec un dernier morceau. Un morceau d'un groupe qui s'appelle Destroy All Monsters. Un groupe de Détroit, USA, qui de 73 à 85 a joué de la musique anticonformiste, un mélange de psychobilly rock et de proto-punk. Ce groupe est connu notamment par les membres du MC5 et des Stooges qui y ont joué. Moi, je vous propose un morceau tiré d'une compilation qui s'appelle Bored, The Ashton Singles Compilation, qui retrace la période 78-79 quand il y avait le célèbre Ron Ashton, le guitariste des Stooges, qui était bien impliqué, hein, puisque là, pour le coup, il a quasiment co-écrit tous les morceaux. Donc je vous propose le titre You're Gonna Die, qui date de 1978, pour se dire à dans 15 jours.
Adieu, adieu, salut. You're Gonna Die.
Yeah.
À dans 15 jours, ciao. Took a look at me and said,